Chers amis du Parti de la France, bienvenue dans cette nouvelle émission de réponse à vos questions. Tout d'abord, vous demandez peut-être pourquoi je porte cette cravate très vintage. Eh bien, sachez que cette cravate a appartenu à Jean-Marie Le Pen et qu'il s'agit d'une de ses cravates préférées que Jeannie Le Pen, c'est la première ou une des premières qu'elle lui a offert et Jean-Marie Le Pen l'aimait beaucoup. Voilà, donc Jeannie m'a fait ce cadeau de me l'offrir et je souhaitais la mettre aujourd'hui pour rendre hommage, pour faire honneur à Jean-Marie Le Pen et je suis très très fier de porter cette cravate qu'il aimait tant. Alors, première question concerne l'affaire Quentin. Qu'en pensez-vous? Qu'en avez-vous pensé lorsque c'est arrivé? Écoutez, beaucoup de choses ont été dites. Il y a eu d'ailleurs différents communiqués du Parti de la France à ce sujet. Je retiendrai surtout que les uniques responsables de ceci sont les Antifa qui ont lynché à mort un homme seul. Au sol alors qu'il était inanimé en continuant de le frapper. Je ne rentrerai pas dans cette polémique qui est de dire est-ce qu'il aurait dû être là, pour quels intérêts était-il là, est-ce qu'il n'est pas mort pour rien ou pour des intérêts étrangers ou ce genre de choses. Si ces questions sont certes légitimes, en attendant, Quentin était lui sur le terrain, pendant que beaucoup de gens qui critiquent peut-être son engagement ce jour-là, se permettent juste de commenter sa mort de manière indécente sur les réseaux sociaux, souvent de manière anonyme. Alors bien sûr, on peut penser ce que l'on veut du collectif Némésis, de ses actions, de ses modes d'action, de la légitimité de ses actions, ça je le conçois, mais en attendant, la mort de Quentin est due à une bande d'ordures antifa qui se sont acharnées sur lui alors qu'il n'était plus capable de se défendre. Et on voit bien là toute la lâcheté de ces hyènes puantes que sont les Antifa. Voilà, l'ennemi, c'est l'Antifa avant tout. Ce sont des salopards totalement ethno-masochistes qui ont une haine absolue de leur identité, de leur civilisation, d'eux-mêmes, et qui, disons-le, ont certainement de graves problèmes psychologiques. Pour se haïr autant, il faut véritablement être profondément taré. Donc c'est uniquement de leur faute, et uniquement ce sont eux les meurtriers de Quentin. Ceci dit, on m'a demandé aussi ce que je pensais des réactions du Rassemblement National et du système en général. Alors, le Rassemblement National a très bien réagi au début. Et le système a été relativement étonnant, puisqu'il y a même eu une minute de silence à l'Assemblée Nationale. Ça n'a d'ailleurs pas été demandé par le RN, mais par Éric Ciotti. Et donc, on a pu se dire, tiens, il y a peut-être un changement sur lequel il faut appuyer, puisque la dénonciation de l'extrême-gauche, non pas par rapport à ses positions pro-palestiniennes, mais par rapport à ses positions anti-françaises, eh bien, il n'est pas désagréable de les voir se mettre au banc de la caste politico-médiatique. Néanmoins, on a pu s'apercevoir qu'il y a tout de même une certaine résistance de la part de certains médias, puisqu'il faut savoir qu'il y a un grand nombre de gens d'extrême gauche au sein de la presse française. Et on a pu voir, alors évidemment je parle de Mediapart, du Huffington Post, différents journaux, et après qu'il y ait eu une émotion, une légitime émotion suite au lynchage de Quentin, de Rank, eh bien, il y a eu ensuite une volonté de le salir, de dire que finalement, il l'avait bien cherché, puisque c'était un néo-nazi, un nazion, une ordure d'extrême droite, enfin voilà. Donc, en fait, c'est tout de même relativement mitigé, ce grand élan national qu'il y a pu y avoir au début, eh bien, il est en train de disparaître au profit des habituels anathèmes qui sont lancés par la presse de gauche sur la droite et l'extrême droite. Et la réaction du Rassemblement National, eh bien, si au début elle était digne et responsable, elle a ensuite été assez relativement lamentable, puisque Jordan Bardella a interdit aux membres du Rassemblement National de participer aux différents hommages qui avaient lieu dans toute la France, et notamment celui qui a lieu à Lyon, la ville où Quentin a été tué. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage, mais nous sommes habitués à ces éternels renoncements, ces éternels reniements du Rassemblement national, et on peut avoir évidemment de forts doutes quand on voit leur volonté obsessionnelle de vouloir plaire à la presse de gauche, à purger en permanence des candidats, des assistants parlementaires. D'ailleurs, l'un des meilleurs de l'ami de Quentin était l'assistant parlementaire d'une députée RN à qui on a intimé l'ordre, qui vient évidemment d'en haut, de Jordan Bardella ou de Marine Le Pen, de virer cet assistant parlementaire parce que, soi-disant, il aurait eu des propos extrémistes il y a longtemps sur les réseaux sociaux, et aussi que c'était l'ami de Quentin de Ranck qui, aux yeux du RN, est peut-être un peu trop extrémiste aussi. Donc voilà, des gens qui passent leur temps à se mettre à plat ventre devant d'autres gens qui les méprisent, qui les traitent de nazis à longueur de temps, eh bien, ça n'augure rien de bon au cas où le Rassemblement national arriverait au pouvoir. La dissolution de LFI est-elle souhaitable? Est-elle souhaitable? On m'a demandé ça. Eh bien, écoutez, au Parti de la France, nous ne sommes pas pour la dissolution des partis politiques adverses. Nous sommes pour que le peuple puisse choisir, mais en revanche, évidemment, il doit y avoir des responsabilités civiles, des responsabilités pénales lorsque les partis politiques ne respectent pas la loi. Mais l'interdire pour des raisons politiques ou morales reviendrait au même que nos adversaires qui interdisent régulièrement des groupes, des structures dites d'extrême droite pour des motifs complètement politiques. Je ne suis pas favorable à cela. Je suis pour une grande liberté politique dans notre pays. Toutefois, il faut respecter la loi. Et là, en l'occurrence, il faudrait peut-être voir quelles sont les responsabilités de la France insoumise dans le meurtre de Quentin, et en particulier ses liens avec un mouvement dissous, violent, d'Antifa, qui est la Jeune Garde. Et là, ça peut se comprendre, puisque la Jeune Garde était en fait un collectif de voyous qui agissaient en toute impunité, qui parfois travaillaient même avec des collectivités locales, comme la ville de Lyon, qui avait par exemple autorisé la Jeune Garde à regarder les vidéos de surveillance de la ville de Lyon pour repérer les gens d'extrême droite. C'est-à-dire ce niveau de collaboration. Donc tout cela, évidemment, mériterait d'être observé de manière policière, de manière judiciaire, et qu'il y ait évidemment des conséquences, parce qu'à partir du moment où des guet-apens violents sont organisés avec des partis politiques, des structures existantes et des collectivités locales, évidemment que là, il y a des responsabilités, là, il y a une collaboration dans la violence qui mérite des poursuites, bien sûr. Mais l'interdiction pure et simple d'un mouvement parce qu'il ne nous plaît pas, eh bien, je n'y suis pas favorable. J'ai une autre question. Concernant quelle serait l'attitude du Parti de la France avec les Antifas? Eh bien, le Parti de la France n'interdirait pas les Antifas en tant que tels. Disons qu'en tant que tels, on n'interdirait pas aux gens d'être soi-disant antifascistes. En revanche, on leur interdirait évidemment d'agresser les gens, de troubler l'ordre public, d'essayer d'interdire des meetings politiques, eh bien, il y aurait recours à la force publique et également il y aurait des poursuites judiciaires vis-à-vis des gens qui chercheraient à troubler l'ordre public, le libre débat politique et démocratique. Eh bien, évidemment, ces gens seraient réprimés et pourchassés, traqués et condamnés. C'est ce qui arriverait, voilà, avec le Parti de la France, mais pas d'interdiction de principe, par volonté d'avoir un libre débat politique, une liberté d'expression pour tous, c'est-à-dire. Mais évidemment, les relais qu'ils peuvent avoir dans les institutions, ça, évidemment, il faudra que ça cesse et que les gens qui relaient l'extrême gauche ou qui collaborent avec l'extrême gauche au sein de nos institutions, au sein de la fonction publique, de manière prosélyte, de manière engagée politiquement, eh bien là, il faudra remettre de l'ordre là-dedans, puisque on sait très bien que l'extrême gauche a toutes ses entrées dans le monde associatif, culturel, au sein de l'administration, eh bien tout cela, ce sera terminé. Nous rétablirons un état neutre, nous rétablirons un état où il est hors de question de faire la politique au sein de la fonction publique. C'est-à-dire que des gens qui sont dans la fonction publique, comme moi-même d'ailleurs, puissent faire de la politique en dehors, bien sûr, mais au sein même de la fonction publique, de faire du prosélytisme sur leur lieu de travail ou d'utiliser leur fonction pour faire du prosélytisme politique, eh bien là, il faudra que cela cesse. Et on me demande aussi si je suis pour le rétablissement du bagne. Alors, pourquoi pas éloigner de la métropole les éléments les plus dangereux de France après, vous savez, à partir du moment où la remigration sera mise en place, que la double peine sera de nouveau appliquée, c'est-à-dire que les délinquants et criminels étrangers ou d'origine étrangère qui seront déchus de la nationalité s'ils commettent des crimes et délits, eh bien, purgeront leur peine en France et seront expulsés ensuite. Il est hors de question, avec un criminel étranger, juste de l'expulser alors qu'on ne saura même pas s'il sera condamné dans son propre pays. Eh bien non, nous rétablirons la double peine, c'est-à-dire une peine de prison exemplaire qui sera effectuée en France ou dans un bagne qu'on pourrait refaire en Guyane. Voilà, on peut y réfléchir effectivement. Et ensuite, ils seront expulsés. Mais à terme, nous n'aurons plus besoin de places de prison, d'imaginer qu'il faille rouvrir un bagne, puisque la France sera un pays sûr. Pourquoi ? Parce que la remigration sera effectuée et que nous rétablirons l'ordre partout en France, en condamnant très lourdement délinquants et criminels étrangers, en rétablissant la peine de mort et des peines dissuasives. Alors, on me demande si je crois en un second tour Bardella-Mélenchon à l'élection présidentielle et quelles seraient les conséquences d'un tel deuxième tour. Eh bien, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que je pense que Mélenchon fait l'élection de trop. Alors peut-être que je me trompe, hein, peut-être que en 2027, vous pourrez me dire « Ah ben vous voyez Thomas Joly, vous avez eu tort sur toute la ligne, Mélenchon est au deuxième tour, a fait 21, 22, 23% ou ce genre de choses ». Honnêtement, je n'y crois pas, je pense que Mélenchon fait l'élection de trop, d'une part parce qu'il est usé, il est marginalisé, je pense qu'il est trop vieux, c'est-à-dire que je ne pense pas que la jeunesse de gauche et même les immigrés peuvent se retrouver, même s'il a quasiment plus de popularité au sein des immigrés, peut-être qu'au sein de la jeunesse d'extrême gauche. Et voilà, il a le côté, je pense qu'il fait l'élection de trop, et je pense qu'il a été marginalisé politiquement, qu'il ne va pas bénéficier des mêmes appuis, des mêmes soutiens, mais toujours est-il que lui, en tout cas, ne se déballonne pas comme M. Bardella, comme Mme Le Pen, et qu'il a assumé totalement son soutien à la jeune garde et à ses militants violents. C'est-à-dire qu'il ne courbe pas les chines devant les médias, devant ceux qui voudraient faire des oukases morales. Alors évidemment, on en pense ce qu'on en veut. C'est proprement répugnant de soutenir ces ordures de la jeune garde. Mais en attendant, lui, au moins, ne se couche pas. Ce n'est pas une admiration que j'ai. C'est en fait, je suis affligé en fait par le comportement du Rassemblement National dès qu'on leur dit que dans leur rang ou qu'ils seraient susceptibles de croiser un nationaliste à moins de 3 km en allant à tel endroit, eh bien, ils se couchent devant la presse de gauche. Et ça, c'est absolument lamentable. Alors, le deuxième tour Bardella-Mélenchon, je n'y crois pas. S'il avait lieu, je pense que Bardella l'emporterait assez facilement. En revanche, je doute de sa capacité à avoir la fermeté nécessaire pour contenir en fait le troisième tour dans la rue que ne manquerait pas d'organiser Jean-Luc Mélenchon et l'extrême gauche de manière violente et d'essayer d'instaurer le chaos pour contester le verdict des urnes. Donc ça, évidemment, quand on voit que Monsieur Bardella n'est même pas capable de soutenir le camp national dans son ensemble, essayer de s'en démarquer, essayer sans arrêt de s'excuser, de se justifier, eh bien on peut fortement douter de ses capacités à remettre de l'ordre en France et à donner les consignes nécessaires aux forces de l'ordre pour rétablir l'ordre au cas où il serait élu et au cas où il y aurait des débordements dans les rues. Donc voilà, permettez-moi d'en douter. On me demande ce que j'ai pensé des cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques d'hiver. Eh bien, je n'ai pas regardé la cérémonie d'ouverture, donc je ne pourrais pas vous en dire grand-chose. Il paraît qu'elle était très bien. J'ai vu quelques extraits. En tout cas, ça changeait cette espèce de chaos wokiste que nous avait organisé mon homonyme Thomas Joly avec deux L. Donc voilà, moi c'est Thomas Joly avec un L et lui c'est Thomas Joly avec deux L. On ne se ressemble pas beaucoup physiquement, ni on va dire sociétalement pour rester politiquement correct. Donc voilà, la confusion n'est pas véritablement possible entre nous. Par contre, la cérémonie de clôture, j'en ai vu un petit peu, donc ça avait l'air un peu plus sombre, un peu plus abstrait, ça m'a moins plu en tout cas que les extraits que j'avais vus de la cérémonie d'ouverture. Mais voilà, moi je suis pour un grand classicisme dans ce type de cérémonie et non pas pour sorte de délire progressiste où on veut absolument faire passer des messages contre le patriarcat, pour l'homosexualité, pour tout ce genre de choses. Ça n'a pas sa place dans un événement sportif, selon moi. Alors, Sonia Mabrouk qui démissionne de CNews pour aller à BFM. Eh bien, écoutez, je m'en fous absolument, totalement. Voilà, Sonia Mabrouk a démissionné parce que Jean-Marc Morandini était maintenu à l'antenne. Il a fini par partir au bout d'un moment. Après, sa condamnation définitive dans une histoire sordide de corruption de mineurs. Bon. Écoutez, que Sonia Mabrouk aille sur BFM, c'est pas pour ça que ça me fera plus regarder BFM. Et on me demande ce que je pense de ces Maghrébins qui se disent patriotes. Alors, qu'un Maghrébin s'assimile à la culture, à la communauté nationale, à la culture française, eh bien... je dis oui, pourquoi pas, je préfère cela plutôt que ceux qui ne veulent pas, veulent venir vivre en France, mais veulent nous imposer leur propre culture, leurs propres us et coutumes. Ce qui me dérange chez certains maghrébins qui se disent patriotes, c'est leur arrogance pour nous expliquer à nous Français, à nous Gaulois, ce qu'est l'identité française. On le voit, par exemple, le fameux Jean Messia, qui ne peut pas s'empêcher de donner des leçons d'identité. Alors, il dit beaucoup de choses justes, beaucoup de choses vraies, mais qu'il ait un peu d'humilité, un peu de retenue, et qu'il n'aille pas expliquer aux Gaulois ce que c'est qu'être Français, ce que c'est qu'aimer la France, puisque lui n'en a sûrement pas la légitimité. Parce que très facilement, avec Jean Messia, d'ailleurs, je lui avais proposé un débat sur l'identité, il s'est lamentablement déballonné, donc si un jour il retrouve ses coronets, eh bien, il peut faire un débat sur l'identité avec moi. Mais ce genre de personnage n'aime pas être mis en difficulté et préfère se retrouver avec des femmes voilées plutôt qu'avec un Français de souche qui lui expliquera véritablement ce qu'est qu'être Français et qui n'acceptera pas ces anathèmes ou parce qu'il traite très vite les gens de nazis, d'extrême droite, de nazi-islamistes, tout ce genre de choses, de boomers, parce que Jean Messia n'est pas si vieux que ça, mais par contre, il a un esprit boomer absolument catastrophique. Enfin bref, toujours est-il que, voilà, méfions-nous de ceux qui en font des tonnes, de ces patriotes de couleur qui veulent expliquer aux Français ce que c'est qu'être français. Évidemment, je ne rejette pas les patriotes qui sont d'origine extra-européenne, hein, bien sûr, mais ce n'est pas à eux de nous donner des cours, des leçons d'identité. Sarah Knafo a-t-elle une chance d'être maire de Paris? Que pensez-vous de sa campagne? Eh bien, je trouve que sa campagne, c'est de la grosse merde. Écoutez, je ne sais pas si vous avez regardé, si vous avez vu un peu sa campagne, mais c'est affligeant. C'est vraiment la campagne, on dirait, oui-oui à Paris, enfin voilà, avec sa robe jaune, avec que des mesures. Alors, elle a complètement mis de côté tout ce qui avait fait le charme de la campagne d'Éric Zemmour. C'est-à-dire que là, dans sa campagne, elle parle très peu d'immigration, d'insécurité, alors que c'est bien pourtant ça qui pose problème dans la ville de Paris. Que voilà, la sécurité, la propreté dans les rues de Paris, elle est due essentiellement au fait que Madame Hidalgo et ses sbires ont transformé Paris en véritable trou à merde. D'ailleurs, on se fout de nous maintenant à l'étranger. Parce que Paris est devenu, enfin, une horreur. Vous n'avez qu'à voir le Champ de Mars avec ses vendeurs à la sauvette qui parfois se battent entre eux, essaient d'escroquer les touristes, avec ces gens qui se font agresser un peu partout dans Paris. Il n'y a plus un quartier qui est tranquille où vous ne risquez pas de vous faire agresser. Quasiment plus un quartier où il n'y a pas un centre pour migrants, où vous voyez des tentes de migrants un peu partout. Bon, voilà, c'est absolument insupportable, et c'est là-dessus en tout cas qu'une candidate dite de droite nationale devrait appuyer. Donc voilà, la campagne de Sarah Knafo, je la trouve absolument affligeante à Paris. Donc évidemment, elle ne sera pas maire de Paris. Je pense que son objectif, c'est de faire 10% pour pouvoir fusionner au second tour avec la liste de Rachida Dati. Mais qu'à mon avis, déjà les 10%, en espérant évidemment agglomérer le vote communautaire, parce qu'il y a fortement un objectif, quand on voit les têtes de liste de Madame Knafo à Paris, on se demande si elle est candidate à Paris ou à Tel Aviv. Donc je pense qu'il y a une volonté véritablement de faire une liste communautaire, d'essayer de prendre le vote communautaire pour l'offrir ensuite à Rachida Dati au second tour, en espérant avoir un strapontin sur la liste de Madame Dati, ou d'avoir une quelconque sous-responsabilité à la mairie de Paris si Madame Dati l'emportait. Mais encore faut-il que Madame Knafo fasse 10%, ce qui est loin d'être gagné. Alors, faut-il voter RN au municipal pour affaiblir la gauche ? Je vous dirais que, après, les élections municipales sont une élection relativement, des élections relativement particulières, où les gens votent quelquefois, pas en fonction de leurs convictions politiques, mais en fonction de la sympathie que leur inspire les gens qui se présentent, les relations personnelles, quelquefois pécuniaires, qu'ils peuvent avoir avec la municipalité en face, c'est une élection vraiment très 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 particulière. En tout cas, la position du Parti de la France, vous le voyez si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, c'est de donner régulièrement, d'apporter notre soutien à différents candidats et candidates têtes de liste à travers toute la France. Donc des candidats, il peut y avoir des candidats, des candidates Rassemblement National. Pourquoi ? Parce que il y a une particularité locale, ou le fait qu'il n'est pas exclu qu'il y ait des membres du Parti de la France sur leur liste, alors même que parfois ils ne sont pas au courant eux-mêmes. C'est ça qui peut être aussi amusant. Nous appelons à voter pour certaines listes à travers toute la France. Et également, nous avons donné la consigne d'éliminer Voilà, si les gens ne savent pas pour qui voter, éliminer les maires qui s'en prennent le plus aux automobilistes, que ce soit dans les grandes villes où tout est fait pour chasser les automobilistes des grandes villes, ce qui fait d'ailleurs que les centres-villes sont désertifiés, ne sont plus peuplés, que d'étrangers qui zonent, qui rôdent. Enfin voilà, c'est vraiment un cocktail, le cocktail écolo-gauchiste immigrationniste dans les grandes villes est absolument terrible. C'est-à-dire que vous avez des centres-villes qui deviennent des coupes-gorges le soir, qui sont relativement protégés la journée, mais des coupes-gorges le soir, les commerces qui ferment, et les gens qui ne vont plus en centre-ville parce qu'ils ne peuvent plus se garer, puisqu'il est impossible de s'y rendre en voiture. Donc voilà, c'est un cocktail absolument catastrophique, et ça, les écolo-gauchistes le font partout là où ils sévissent. Donc dans ces grandes villes-là, éliminer en priorité, si ça doit passer par le vote pour un candidat RN, eh bien faites-le, voire même un candidat divers droite, éliminer les candidats les listes les plus nocives, en tout cas pour vous et pour les automobilistes, et également dans les communes rurales. Vous avez énormément de maires qui réduisent sans aucune raison la vitesse à 30 km/h, qui vous installent des ralentisseurs, des dodanes qui pour la plupart, 90% d'ailleurs, ne sont pas aux normes, qui vous installent tout ça, qui vous pourrissent la vie, qui pourrissent la vie des automobilistes. Et bien profitez des élections municipales pour virer ces emmerdeurs, ces gens qui veulent absolument s'en prendre aux automobilistes français. C'est en tout cas la consigne de vote du Parti de la France pour ces élections municipales, qui sont peut-être des élections structurantes localement, mais absolument pas au niveau national. Les élections municipales sont des élections relativement ingrates, et c'est surtout de la gestion plus que de la politique. Qu'est-ce qu'une victoire du Rassemblement National changerait en 2027? Eh bien, on en a un peu parlé tout à l'heure. Je vous ai fait part de mes doutes sur la solidité de quelqu'un comme Jordan Bardella. Je ne parle même pas de Marine Le Pen, d'ailleurs, qui, elle, n'a aucune chance de l'emporter. C'est-à-dire que si Marine Le Pen était candidate pour le Rassemblement National, vous pouvez être certain que Marine Le Pen ne l'emportera pas. Voilà, elle est aussi usée que Jean-Luc Mélenchon, elle est aussi carbonisée que lui, et que ce serait l'élection de trop pour elle aussi, et que Jordan Bardella a, lui, une chance de l'emporter. Alors, ce qu'on pourrait espérer d'une victoire de Jordan Bardella, bah, c'est du moins l'élimination de candidats nocifs qui ont fait qui ont démontré leur nocivité, l'élimination de l'extrême centre, l'élimination de l'extrême gauche, l'élimination de la gauche, l'élimination de la fausse droite. Eh bien, en tout cas, au moins, ça servirait à une chose, c'est d'éliminer les plus nocifs. Encore faut-il que Jordan Bardella ensuite arrive à transformer l'espoir qu'il aura suscité en politique concrète. C'est-à-dire que si c'est pour faire exactement la même chose que les autres, eh bien, à mon avis, il y aura un énorme retour du bâton dès les élections suivantes. Charles Alloncle, peut-il faire bouger les choses à France Télévisions? Alors, je rappelle pour ceux qui ne le connaîtraient pas, Charles Alloncle, c'est un député UDR qui est rapporteur dans la commission d'enquête sur France Télévisions. Et d'ailleurs, une commission d'enquête qui dure, parce qu'il arrive à détricoter toute cette mafia payée avec l'argent public, et quasiment tous les jours, on a un scandale qui concerne France Télévisions qui est mis au grand jour. Alors, on peut féliciter Charles Alloncle de son action et de sa pugnacité, parce qu'il doit aussi faire face et aux gens de France Télévisions ou de personnes qui ont un rapport avec France Télévisions, qui sont interrogés par cette commission d'enquête et qui sont très rétifs pour répondre à ces questions. D'ailleurs, même certains, comme Xavier Niel, refusent de venir, parce que là, il est en train de véritablement donner un coup de pied dans la fourmilière et de prouver que France Télévisions est une véritable machine à fric pour certains et une machine aussi idéologique. Donc là, il fait un travail exemplaire. Le seul problème, c'est qu'il doit aussi combattre les gens qui font partie de la commission avec lui, dont le président de la commission, qui est un macroniste et qui lui met des bâtons dans les roues, qui l'empêche parfois de poser des questions. Donc, en tout cas, Charles Long fait un travail essentiel. Alors, est-ce que ça va changer les choses? Je ne sais pas, parce que pour maintenant, l'ignoble sorcière Delphine Ernotte, malgré tous les scandales, malgré toutes les casseroles que Charles Lalonde a dévoilées, eh bien, elle est toujours en place, elle ne parle pas de démissionner, ça ne fait pas spécialement de scandale, alors que cette horrible bonne femme a manipulé de l'argent public à des fins et idéologiques et aussi à des fins personnelles, puisqu'on a pu le voir qu'il y a une gabegie absolument inimaginable au sein de France Télévisions. Tout du moins, ça a le mérite d'exposer au grand jour ce scandale, et j'espère qu'il y aura des conséquences suite à cette commission d'enquête. En tout cas, Charles Lalonde fait le boulot, on ne peut pas dire le contraire. On me demande si j'ai des anecdotes avec les Antifa. Alors c'est sûr qu'au cours de ma désormais assez longue carrière militante, hein, puisque ça fait plus de 30 ans que je milite pour la droite nationale, et effectivement j'ai déjà eu j'ai déjà été au contact avec les Antifa. Tout ce que je peux en dire, sans révéler d'anecdotes qui pourraient me porter préjudice, ne sait-on jamais, en tout cas que j'ai rarement vu des gens aussi peu courageux. C'est-à-dire que j'en ai déjà vu se déballonner complètement quand on en avait chopé qui était en train de décoller nos autocollants. Ils nous avaient pas vu arriver, mais on n'a même pas eu besoin de rien faire. C'est après s'ils chialaient pas devant nous et on leur a fait recoller des autocollants. Donc ça, c'est arrivé plusieurs fois. J'ai fait aussi recoller des affiches parce que les types se déballonnent complètement. C'est-à-dire qu'ils combattent la bête immonde, mais à partir du moment où ils croisent ce qu'ils estiment être la bête immonde, ils se déballonnent totalement. Sauf s'ils sont un ratio de 20 contre 1. Là où ils commencent à retrouver des grandes gueules. Il y a une certaine similitude avec les Maghrébins, par exemple. Là, on peut véritablement voir des gens qui sont même calmement incapables de débattre. C'est-à-dire qu'ils sont dans l'anathème permanent, ils sont absolument incapables de faire un débat avec vous. De toute façon, ils le revendiquent, hein. Pas de débat avec l'extrême droite, pas de liberté d'expression pour les fachos, ce genre de choses. Ça s'arrête là. Et quand physiquement il peut y avoir confrontation, c'est uniquement quand ils sont en grand surnombre, et même encore là, quelquefois, il est déjà arrivé à partir d'être vraiment en petit nombre et d'avoir le dessus, parce qu'il suffit d'en calmer un ou deux pour calmer les velléités des autres. Mais donc voilà, les anecdotes, voilà, ce que je retiendrai des Antifa, c'est leur lâcheté absolue, leur laideur, leur crasse. Ils représentent véritablement l'antithèse du beau, du bien et du vrai. On me parle des événements au Mexique. Il y a eu un très bon communiqué de notre ami Arnaud Mille, qui est d'ailleurs notre délégué du Parti de la France aux États-Unis, et donc il y a particulièrement, donc je vous renverrai à ce communiqué pour avoir l'avis du Parti de la France, communiqué que je partage évidemment. Et d'ailleurs, il faut se méfier, c'est-à-dire que quand on laisse un pays aux narcotrafiquants, et ben voilà ce qui peut arriver, c'est que les narcotrafiquants peuvent créer un chaos assez énorme dans un pays, puisque là, en l'occurrence, un chef de cartel a été tué, et ce cartel a créé du désordre, mais plus que du désordre, puisqu'il y a eu des dizaines de morts, hein, des affrontements, je ne sais plus combien il y a eu des dizaines de membres des forces de sécurité qui ont été assassinés, il y a eu quasiment des attentats, des barrages filtrants mis en place par les cartels, enfin voilà, ça a été quelque chose d'assez énorme, et la présidente de gauche a dit qu'il ne fallait pas répondre à la violence par la violence. Hein. Voilà, Madame Sheinbaum a expliqué ça. Donc voilà, quand vous abandonnez l'État aux narcotrafiquants, eh bien voilà ce qui se passe. Et malheureusement, c'est ce qui pourrait se passer en France si on continue de laisser prospérer le narcotrafic dans notre pays. Alors, anecdote, figurez-vous qu'il y avait un membre du bureau politique du Parti de la France, Fabrice Langelet, qui était au Mexique à ce moment-là. Alors, il a eu de la chance, il a quitté Puebla juste avant que ça pète. Enfin, en fait, il n'a pas été là quand il y a eu des exactions, des heurts, des affrontements, mais il était vraiment pas loin, donc il fallait que nous, on ait était, donc il était en pèlerinage religieux avec son fils au Mexique, et il a fallu qu'il tombe pendant ces événements. Alors, que faire des gens du voyage qui posent des problèmes? Effectivement, les gens des voyages, dont beaucoup ont la nationalité française, d'ailleurs beaucoup ont aussi des noms très français. C'est vrai, c'est un véritable problème. Ben, je pense que les gens du voyage ne doivent pas être traités autrement que d'autres. C'est-à-dire qu'il ne doit pas y avoir de laxisme vis-à-vis des gens du voyage, qu'ils doivent être systématiquement expulsés des terrains où ils n'ont pas le droit de s'installer, qu'ils doivent être systématiquement poursuivis lorsqu'ils commettent des exactions, des méfaits, qu'ils doivent être évidemment aussi étroitement surveillés parce qu'on sait que c'est une population très criminogène, et également qu'il ne doit y avoir aucun passe-droit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils se branchent sur l'électricité de manière sauvage ou sur les arrivées d'eau, eh bien, ils doivent payer comme tout le monde. Il n'y a pas de raison que les contribuables, que ce soit toujours les mêmes cons qui payent, pendant que d'autres profitent gracieusement de l'eau, de l'électricité ou de tout autre service qui est payant pour les Français. Donc, et même si eux-mêmes sont des Français, pour les contribuables français. Mais en tout cas, voilà, il n'y a pas à avoir de laxisme vis-à-vis de ça, et il faudrait que les préfets soient beaucoup plus fermes, en tout cas reçoivent des consignes pour systématiquement, dès qu'il y a des problèmes avec des gens du voyage, eh bien, que les forces de l'ordre soient envoyées et qu'on remette de l'ordre et qu'on arrête les gens qui se livreraient à des malversations, à des méfaits, à des crimes, à des actes de délinquance, eh bien, à des vols, à des recels, ce genre de choses. Eh bien, il faut en finir avec toute cette impunité vis-à-vis de cette communauté qu'on voit malheureusement trop souvent impliquée dans les affaires judiciaires. Police, gendarmerie, pompiers, on me demande s'il ne faudrait pas revoir la sélection et imposer les mêmes barèmes physiques pour les hommes et les femmes. Alors j'en ai déjà parlé, effectivement je suis contre la féminisation de ces métiers. Parce que d'une part ça met en danger la vie de certaines femmes qui sont envoyées dans des situations qu'elles ne sont pas capables de maîtriser ni de contrôler, et ça met aussi en danger la sécurité, voire parfois la vie de leurs collègues masculins qui ont, en plus de devoir gérer des situations difficiles, doivent gérer la sécurité de leurs collègues féminines. Donc ça c'est un tabou, peu en parle, et bien au Parti de la France on en parle, et nous sommes évidemment, on ne veut pas empêcher à des femmes d'être gendarmes, d'être policières, d'être pompiers, mais en tout cas il faudrait revoir leur rôle, leur participation pour des missions qui ne sont pas faites pour des femmes. Et ça, c'est un tabou, personne n'ose en parler, en tout cas au sein de la profession, mais si vous en parlez en off avec des policiers, avec des gendarmes, avec des pompiers, c'est un réel problème. Ça, c'est une volonté politique, idéologique, de dire les femmes peuvent faire partout comme les hommes. Eh bien, c'est faux, en particulier dans ces métiers où ça peut mettre en danger les vies. On me demande ce que je pense du fait à l'école, au sein des établissements scolaires, de faire des cours de matin et du sport l'après-midi. Moi, je dirais pourquoi pas. Pourquoi pas, on peut essayer. De toute façon, notre système scolaire est en échec. Et bien, on pourrait peut-être opérer ce changement. Je pense qu'il faut étudier la question, en tout cas ne pas la rejeter. Et effectivement, il y a un gros problème de sport en France au niveau des jeunes. Quand on sait que les jeunes sont incapables de courir, enfin, une grande partie des jeunes est incapable de courir plus de 5 minutes, eh bien, oui, c'est proprement un problème de santé publique. Donc, il faut remettre les jeunes au sport et pourquoi pas en faire la promotion au sein des établissements scolaires. Ce serait peut-être une bonne idée avec des cours le matin et du sport l'après-midi. Oui, c'est à étudier. En tout cas, je crois que ça se pratique dans certains pays d'Europe. Alors, que pensez-vous du sionisme? Est-il compatible avec la France? Alors, le sionisme, si le sionisme sait que Israël est un État, eh bien, je ne vois pas pourquoi, ou les Juifs est un État, je ne vois pas pourquoi ils ne pourraient pas avoir d'État. Ensuite, ils ont choisi en 1948 de vivre au milieu des Arabes, leurs ennemis héréditaires, donc forcément on se doutait que ça n'allait pas bien se passer, ce qui est le cas, ce qui était un conflit inextricable dans lequel, en tout cas au Parti de la France, on ne veut pas s'ingérer. Ensuite, que les Juifs aient un pays, voilà, enfin que les Israéliens puissent exister, je ne conteste pas aux Israéliens le fait d'avoir un pays. Mais ça ne me concerne pas, moi je suis français, donc je ne veux pas qu'on me demande sans arrêt de me positionner en fonction du sionisme, en fonction d'Israël, ou en fonction de la Palestine. Moi, c'est, ce qui m'intéresse, c'est les intérêts de la France, les intérêts des Français, les intérêts de l'Europe, mais les intérêts du Proche-Orient, que ce soit ceux d'Israël ou ceux de la Palestine, ou ceux des pays arabes, eh bien ce ne sont pas les nôtres. Donc est-il compatible avec la France? Ben, la France n'a rien à voir avec le sionisme. Bon, alors attention, faut que je fasse très gaffe, parce qu'apparemment, une loi sûrement voter pour interdire d'être anti-sioniste. Alors ça veut dire interdire de contester à Israël le droit d'avoir un État, je ne sais pas exactement, ou alors ce que peut-être que la moindre contestation de la politique du gouvernement israélien sera considérée comme pénalement répréhensible, je ne sais pas, mais en tout cas, ce type de loi ne va pas dans le sens de la liberté d'expression, et le Parti de la France est totalement contre. Et enfin, dernière question. Que pensez-vous des pudeurs de la droite dans l'affaire Epstein? Alors je dis Epstein, je ne dis pas Epstein, parce qu'il faudrait m'expliquer pourquoi on dirait Epstein et pas Einstein, et on dirait pas Einstein, enfin bon bref. Voilà, puis on a reproché, là, récemment, à Mélenchon d'être le symbole de l'antisémitisme parce qu'il a ironisé sur cette prononciation fantaisiste que la caste politico-médiatique voudrait nous imposer. Ah. Oui, moi je pense qu'il faut... Pourquoi à partir du moment où on n'a rien à cacher, eh bien, que l'affaire Epstein, que tous les fichiers soient diffusés pourquoi? Oui, il faut que tout le monde connaisse la vérité. Et c'est vrai qu'on peut s'étonner que certains partis de droite, dits de droite nationale, soient très timorés sur la question. Voilà, que l'on soit au courant de toute cette affaire sordide, de savoir qui est impliqué, qui ne l'est pas. Parce qu'attention, des gens qui sont simplement cités dans des mails d'Epstein ne sont pas forcément impliqués dans les actes sordides qu'il faisait sur son île ou dans le trafic d'influence qu'il organisait au profit d'Israël. Oui, parce que voilà, je ne crois pas spécialement à Epstein, agent du KGB, mais en revanche, voilà, toutes les preuves sont là pour constater que Epstein agissait pour le Mossad et agissait pour l'État d'Israël en impliquant des gens, en organisant un vaste trafic d'influence et cerise sur le gâteau en se livrant à des actes absolument ignobles sur son île avec des jeunes filles mineures. En tout cas, tout cela est avéré. Et je ne vois pas pourquoi nous ne demanderions pas, enfin en tout cas la droite nationale dans son ensemble ne demanderait pas tous les éclaircissements possibles et toutes les poursuites nécessaires suite à cette affaire infâme. Enfin voilà pour terminer, je vous donnerai les prochains rendez-vous du Parti de la France. Ils auront lieu donc le 20 mars à Paris. Il y aura une conférence de l'ami Scipion de Salme sur le maréchal Pétain. Ensuite, au mois d'avril, la date n'est pas encore fixée, nous rendrons un hommage à Jean-Marie Le Pen à la Trinité-sur-Mer. Et le 1er mai, nous ferons notre hommage à Jeanne d'Arc, comme nous le faisons tous les ans à Paris. Et donc, vous serez évidemment tenus au courant prochainement de ces événements. En tout cas, je vous dis à la prochaine.